serez bienvenue dans cette émission. Plusieurs entités agricoles du village de Bapakombe, Bakondo, Abeni ont été attaquées dans la nuit de samedi à dimanche par les rebelles des ZDF. Une vingtaine de civils, pygmées et bantous, ont été victimes de ces nouvelles assauts meurtriers. L'Association nationale des victimes du Congo, ANVC en sigle, basée à Beni mais représentée ici à Kinshasa, a réagi hier à travers un communiqué. Elle condamne avec fermeté ces massacres du quartier Ngadi. L'ANVC exige l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour faire toute la lumière sur ces drames et identifier les responsables. Son coordonnateur, Sadiki Chamukobia Espoir, estime qu'il est urgent de mettre fin à l'impunité qui favorise la répétition de ces violences dans l'est de la RDC. Mais déjà dimanche matin, les forces de sécurité avaient été déployées dans les quartiers Ngadi afin d'évaluer la situation. Selon le porte-parole de l'armée dans la région, des opérations de poursuite des assaillants sont en cours, notamment pour tenter de secourir d'éventuels otages. Toutefois, le chef du village de Bapakombe, Bakondo, a interdit temporairement aux cultivateurs d'accéder aux zones agricoles de Mayangose le temps que l'armée mène ses opérations militaires. Quel est-il faire de ces nouvelles tueries des civils par les ZDF dans cette région des Beni? C'est l'objet du débat de ce soir. Et nous recevons en ligne Jean-Paul Kapitula. Il est coordonnateur de la protection civile dans la région des Beni. Bonsoir, monsieur Jean-Paul Kapitula. Jean-Paul Kapitula, est-ce que vous êtes là?
Je suis là, je suis là.
Voilà.
Et bonsoir aux auditeurs de la radio Okapi.
Et aussi en ligne, Ildefonso Boakienna Kazi, il est chercheur à Ebouteli, il est spécialiste de la question EDF. Bonsoir Ildefonso Boakienna Kazi.
Bonsoir Guy, bonsoir aux collaborateurs et bonsoir aux auditeurs de la radio Okapi.
Et ici au studio, professeur Arsène Mwaka, il est professeur, il est député national élu des Beni territoires au Nord Kivu, il est également cadre de l'Union sacrée de la Nation. Bonsoir professeur Arsène Mwaka.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir aux co-débatteurs.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, plusieurs entités agricoles du village de Bapakombe, Bakondo, ont été attaquées dans la nuit de samedi à dimanche par des rebelles des ZDF. Une vingtaine de civils pygmées et bantous ont été victimes de cette nouvelle attaque. Les détails dans cet entretien avec Marc Marofimbo et Benjamin Mudumbi.
Bonsoir Marc Marofimbo.
Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous les auditeurs internautes des Radio Capi.
Marc, que sait-on de cette attaque 48 heures après?
L'attaque survenue samedi soir dans les entités agricoles du village de Bapakombe Bakondo et qui a fait une vingtaine de morts est attribuée aux rebelles des ZDF. Selon la notabilité locale, c'est depuis plus de 2 semaines que la population avait alerté les services de sécurité sur des mouvements suspects de ces rebelles, notamment leur traversée de la route nationale numéro 4 d'ouest en est. Les assaillants ont d'abord ciblé les camps des autochtones pygmées d'Engadi, situés à environ 7 km au nord-est de la ville de Beni. 7 personnes y ont été tuées, parmi lesquelles le célèbre comédien pygmée Mangese Shukurani, ainsi que certains membres de sa famille. Par la suite, les rebelles ont poursuivi leur attaque dans plusieurs entités agricoles de Mayangose, notamment à Vemba, Vigila et Kiansehe, où des agriculteurs ont été également tués.
Marc, dites-nous quel est actuellement le bilan de cette attaque.
À l'heure actuelle, le bilan fait état de 25 civils tués, dont 7 pygmées. On signale aussi une dizaine d'agriculteurs portés disparus depuis cette attaque. Dimanche matin, des jeunes de la ville en colère se sont rendus sur les lieux pour récupérer les corps des victimes. Jusqu'à lundi soir, d'autres corps continuaient d'être retrouvés dans la profondeur de la forêt où la population exerce ses activités agricoles.
Cela étant, que disent les autorités, surtout l'armée, à propos de cette situation?
Dès dimanche matin, les forces de sécurité se sont déployées dans les quartiers Ngadi afin d'évaluer la situation. Selon les porte-parole de l'armée de la région, des opérations de poursuite des assaillants sont à cours, notamment pour tenter de secourir d'éventuels otages. Par ailleurs, le chef du village de Bapakombe Bakondo a interdit temporairement aux cultivateurs d'accéder aux zones agricoles de Mayangose le temps que l'armée mène ses opérations militaires.
Merci Marc pour ces précisions. Bonne soirée à Beni.
Merci Benjamin.
Merci à vous, Marc Emaro Fimbo et Benjamin Moudoumbi. Jean-Paul Capitula, vous êtes coordonnateur de la protection civile dans la région des Béni. Après ces explications de Marc Emaro Fimbo qui s'entretenait avec Benjamin Moudoumbi, avez-vous d'autres détails à ajouter au sujet de ces nouvelles attaques des ZDF?
D'abord, il faudra dire que la question de ZDF a commencé aujourd'hui. Nous avons à peine plus de 14 ans, parce que c'est à partir de 2014 que les ZDF ont été agressifs contre la population. Et vous savez que les ZDF ne s'attaquent pas aux militaires directement. Ils s'attaquent aux populations inoffensives qui n'ont pas de moyens nécessaires pour pouvoir se défendre. Donc, vous comprendrez, les populations agricultrices, mais aussi qui sont dans des périphéries de la ville, ou soit des...
Monsieur Jean-Paul Capitula, Monsieur Jean-Paul Capitula, oui, est-ce qu'il y a possibilité de bouger un peu, parce que votre ligne commence à poser problème. Essayez de bouger un peu.
Oui.
Allez-y.
Oui, je disais que cette question ne commence pas aujourd'hui et que nous devrions prendre cette question avec beaucoup plus de vigilance parce que ça fait plus de 14 ans que les ZDF sont actifs dans la zone. Nzoum, Ngadi, c'est l'endroit où les ZDF ont attaqué la ville de Béni la première fois, le 15 octobre 2014. Donc, c'est que... assez d'éléments à ajouter. Sinon, on pouvait dire que cette attaque est survenue à un mauvais moment, pendant que
Jean-Paul Capitula,
toute la population.
Vous sortez un peu coupé, hein. Vous avez dit que cette attaque est intervenue à un mauvais moment, et on n'a pas suivi ce qui a suivi après, en fait.
Oui, je disais que c'était pendant que nous sommes engloutis par la riposte à la maladie à virus Ebola, et que donc. La question de la maladie de Ebola. Donc, il faudra rappeler ici que Ngadi a été victime, je l'ai répété la première fois, le 15 octobre 2014, et que donc, c'est vraiment une entité vulnérable. C'est une zone qui a toujours été attaquée, s'ils font parler. Ah, il faut parler des Matete, il faut parler de Belay, parler de la zone Païda et Rwango, c'est juste une ligne droite. Donc, c'est une entité beaucoup plus vulnérable et que normalement, ça devrait attirer l'attention de tous nos services.
Oui, Monsieur Jean-Paul, est-ce qu'il y a possibilité de sortir? Si vous êtes dans une maison, vous sortez de la maison. Peut-être que la ligne peut s'améliorer.
Je suis pourtant à l'extérieur. Est-ce que là, vous me captez?
Ok, allons-y alors. On espère que ça va marcher.
Il faudra que ça attire l'attention de nos services et de tout le monde, parce que c'est la première fois que ces événements se passent dans la zone, avec Moudoumbi, et pouvait peut-être être vérifié et voir si réellement il y a d'autres éléments à ajouter, mais sinon, il y a été sur le lieu.
Décidément.
C'est tous les rescapés.
Voilà, donc votre ligne pose toujours problème. Mais vous avez dit ici, vous avez rappelé que les ZDF ne s'attaquent pas aux militaires, ne s'attaquent pas à l'armée, ils s'attaquent plutôt aux civils, hein, qui sont une cible facile. Mais comment vous expliquez ces nouvelles attaques alors que les opérations conjointes Shuja avaient réussi, n'est-ce pas, à pacifier tant soit peu cette région de Béni, où on n'a plus enregistré les attaques des ZDF depuis plus de 5 ans. Est-ce qu'il y a eu relâchement dans les opérations? Vous qui êtes sur le terrain?
Je ne pense pas qu'il faut dire qu'il y a relâchement. Mais peut-être il y a une inattention peut-être par laquelle... Parce que les ZDF profitent parfois, oui.
Allez-y. Parfois,
et du fait que à un certain moment, on leur laisse... Ça c'est un élément qui est montré. Vous savez, ils ont été opérationnels dans la zone de à Makoumo, à Mambasa lui-même, ils ont été dans toute la zone sud-ouest, nord-ouest de Beni, notamment vers Mamouvé, il y a feu. Ils ont attaqué. Donc, à un certain moment, il est question que nos services s'adaptent au mode opératoire de ces ADF et qu'ils arrivent à persuader ces ennemis de la paix. Parce que ce sont des terroristes, ils développent leur mécanisme. Nous devons nous préparer avant et comprendre leur mode opératoire et anticiper des actions pour que nous soyons à mesure de sécuriser des grandes organisations comme nous. Ce qui a été fait le dimanche, c'était inattendu. Bien que les armées soient là, mais il faudra dire qu'il faudra tirer toujours la face sur toutes les formations, rumeur que ce soit.
Voilà, il a dit que la population avait alerté depuis plus de 2 semaines les services de sécurité sur des mouvements suspects de ces rebelles, notamment leur traversée de la route nationale numéro 4 d'ouest à est. Et donc aussi, ces alertes avaient été prises en compte par les services de sécurité. On aurait, n'est-ce pas, anticipé et donc déjoué les plans de ces ZDF.
Alors, je ne vais pas confirmer cette thèse, parce que c'est un mécanisme d'alerte qui est mis en place. Nous avons un système d'alerte précoce qui est installé au niveau du gouvernement provincial. S'il y a des inspecteurs, on a notifié des alertes, alors à ce moment-là, on pouvait réussir à confirmer cette thèse. Mais il faudra dire que, au regard aussi de toutes les informations qui viennent souvent dans la zone, il y a tendance aussi de dire que plusieurs fois qu'on a reçu des fausses alertes, et on peut rester dans le sommeil où on croit toute information serait vraie. Et que donc, il faudra dire.
On a du mal à vous comprendre, Monsieur Jean-Paul Capitula, c'est pas de votre faute, hein, c'est la liaison téléphonique qui n'est pas bonne. La réalisation va essayer de vous rappeler. Arsène Mwaka, vous êtes professeur, vous êtes député national, élu des Béni territoires au Nord Kivu, vous êtes également cadre de l'Union sacrée de la Nation. Et comment vous comprenez ces nouvelles tueries des civils dans cette région des Béni?
Avant toute chose, je voudrais m'incliner devant la mémoire de tous les compatriotes, plus ou moins 25, qui sont tombés ce week-end. Je voudrais en même temps saluer le courage de la population de Beni et particulièrement des jeunes qui sont rentrés dans la brousse pour aller chercher les corps des compatriotes qui sont tombés sous le coup, une fois de plus, du couteau de l'ADEF. Ce qui se passe à Beni, c'est une répétition de l'histoire. Ngadi est parmi les premiers endroits où les populations du Nord Kivu ont été égorgées. Quand les populations ont été égorgées en décembre 2013 à Kamango, le deuxième endroit où les populations ont été égorgées, c'était en octobre à Ngadi. J'étais de la commission parlementaire qui était descendue sur les lieux à l'occasion. J'étais rapporteur de cette commission. La situation que nous sommes en train de décrire est celle qui s'est passée en 2014. Et donc, plus de 12 ans après, nous ne semblons pas avoir tiré les leçons et nous sommes toujours dans le même discours, c'est-à-dire des souhaits de voir l'armée réagir efficacement, les souhaits de voir cette histoire se terminer. Et soit dit en passant que nous sommes à 40 ans de la présence des rébellions d'origine ougandaise dans les territoires de Beni et dans la ville de Beni. Je suis député élu de la ville de Beni. Ça me fait très mal puisque nous sommes en ville. Là où cette scène se passe, c'est à plus ou moins 3 à 4 kilomètres du principal rond-point de la ville de Beni. Nous sommes à 1,5 km du gouvernorat de la province.
Et donc c'est dans la ville de Beni.
C'est dans la ville de Beni. Donc quand on raconte des villages et autres, on ne veut pas vraiment dire la vérité. Nous sommes dans un quartier de la ville de Beni, le quartier Ngadi. Maintenant, derrière.
Alors, comment vous expliquez que les rebelles puissent percer les dispositifs sécuritaires qui étaient mis en place par
À côté de là où les pygmées ont été égorgés, il y a des positions militaires. Donc c'est la même situation qu'il y a plus de 10 ans qui se répète. Et donc ça semble être n'est pas tirer les leçons du passé.
Oui, mais il y a eu une longue période d'accalmie, hein, environ 5 ans, on n'enregistrait pas, en fait, on ne déplore plus ces genres de situations. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces gens reviennent encore? C'est quoi les facteurs qui peuvent expliquer cela?
On ne peut pas dire ça, puisque l'ADF est toujours en opération dans les territoires de Béni, puisque nous sommes sur l'axe de l'aéroport de la ville de Béni, qui amène vers Oïcha et le triangle de la mort dont on a longtemps parlé ici. Et quand on est à Oïcha, c'est 30 km de la ville de Béni, quand on avance un tout petit peu, pendant longtemps on a décrié à Maïmoya, à Kokola, on y a déploré des morts, même cette année, on y a déploré des morts. Mais la ville de Béni a relativement été épargnée, puisque l'année passée, l'année antérieure, c'est dans l'ouest de la ville de Béni qui a eu présence une fois de plus des EDF. Donc ça ne fait pas 5 ans. Nous ne sommes pas en paix dans cette région et il y a des choses qui se répètent. Mais ici, nous sommes sur une scène qui est la scène originelle, là où les choses ont commencé. Et ça se passe toujours comme ça. Et donc ça signifie que d'ici quelques jours, on va encore apprendre d'autres choses et il est temps que les choses soient prises au sérieux et qu'on tire au maximum les leçons du passé, parce que alors qu'on estimait que le front s'était déplacé du côté de Lubero, s'était déplacé du côté de Mambasa, et même jusqu'à la Tchopo, parce qu'on ne tire pas les leçons. La défaite restait pendant une affaire de 30 ans, une histoire de la ville et du territoire de Béni. Maintenant, ça devient un phénomène de 3 provinces, c'est-à-dire du Nord Kivu, de l'Ituri et de la Tchopo. Ça signifie ce phénomène qui a été marginal, comme nous avons déploré à l'époque, un phénomène qu'on appelait la révolte de Banyamulenge, la guerre de l'Est, et finalement c'est devenu une guerre de la République démocratique du Congo qui a embrasé toute la République.
Et donc, peut-on dire que les opérations FRDC-IPDF, au lieu de régler les problèmes, ont davantage posé les problèmes?
Non.
Il faut en délocalisant, n'est-ce pas, cette menace?
Il faut sérieusement avouer qu'il y a eu du positif. C'est-à-dire la coalition IPDF et FRDC a fait du travail sur l'axe Rwenzori. Il y a eu du bon travail qui a été fait et pendant très longtemps on ne pouvait plus parler de l'EDF dans l'axe Rwenzori. Et donc ça c'est quand même à l'actif de l'armée et de ses alliés. Mais l'axe Oïchambaou a continué à souffrir. Elle a continué à souffrir, il y a eu des incursions à Mambaou, à Mabasele, et une fois même presque au centre-ville d'Oïcha. C'est tout récent, c'est quelques mois.
Et pourquoi ne pas dupliquer l'expérience de Rwenzori, plutôt Rwenzori, ailleurs?
Oui, le mal c'est que généralement, quand il y a une paix relative au dégarni, et au dégarni sans mécanisme innovateur, et c'est là que réside le problème.
On dégarnit aussi, c'est l'armée
nationale. C'est l'armée nationale qui dégarnit. Et essayer un peu d'aller lancer de nouvelles opérations. Maintenant, on aurait dû créer un nouveau mécanisme pour que les espaces dégarnis puissent connaître un nouveau mécanisme. Et pendant très longtemps, nous avons crié pour dire la prise à charge citoyenne de la sécurité doit être mise à profit. C'est-à-dire, des jeunes gens qui ne se sont pas adonnés à des crimes, à des drogues, à des ceci, peuvent être organisés par l'État congolais lui-même pour qu'ils soient responsabilisés sur le plan des renseignements, sur le plan même sécuritaire, et essayer de trouver un mécanisme innovateur sur lequel nous ne serons pas les premiers à travailler, puisque l'Ouganda voisin y a travaillé. Ils ont inventé leur concept de local defense, c'est-à-dire des jeunes gens qui sont formés par l'armée nationale et qui possèdent même des armes.
Oui,
et qui permettent de réagir.
Ils ont un mécanisme qui fonctionne chez eux.
Exact.
Ils sont avec nous actuellement. Pourquoi ne pas nous aider à implanter ces mécanismes?
Ça fonctionnait depuis 1998, quand ils ont connu des massacres de Kichwamba, où une école a été massacrée, des élèves ont été massacrés. Et chez eux, ça marche. Ils ont réussi à balayer l'ADF de chez eux vers chez nous, puisqu'ils ont fait participer la population. Il n'y a pas une plus grande armée que la population.
Si là-bas ça marche, c'est que ça peut aussi marcher chez nous.
Très bien, ça peut marcher. Et même les officiers ougandais, il y a quelques mois, étaient passés au gouvernorat de la province. et nous avons même les enregistrements où ils encourageaient le gouvernement, ils exhortaient le gouverneur à convaincre le gouvernement central et l'armée nationale à organiser la population pour qu'elle soit actrice elle aussi de sa propre sécurité. Mais nous sommes dans une situation où si on tente de s'organiser, même les jeunes gens qui sont entrés avec des bâtons dans la brousse, ils n'étaient pas encouragés. On n'a pas vu l'armée, le gouvernorat leur donner des camions pour évacuer des corps. Les corps ont été évacués comme dans la préhistoire, sur du bois, ainsi de suite. Les images sont macabres et c'est inacceptable. Et malheureusement, ça discrédite l'État congolais puisque certains qui sont tombés sous le coup de l'ADF, c'est par exemple Mangessé qui est un comédien, musicien célèbre, pygmée, de son état, qui a été massacré avec toute sa famille, c'est-à-dire son père, sa mère et tout le reste. Donc c'est horrible ce qui se passe à Beni.
C'est horrible comme vous le dites. Il défend ce Bwakyanakazi, vous êtes chercheur à Ebouteli, vous êtes spécialiste de la question EDF. Quelle lecture vous faites de ces nouvelles tueries des civils par les EDF dans cette région de Beni?
Alors, cher Guy, nous suivons cette dynamique EDF depuis bien longtemps. Tel que le disait le co-débatteur, ce n'est pas aujourd'hui que cette dynamique commence dans la zone. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette dynamique a pu s'éparpiller dans plusieurs zones. Ce n'est pas seulement trois provinces qui sont concernées, mais aujourd'hui, c'est déjà quatre provinces qui sont concernées, notamment la province du Nord-Kivu, la province du Turi, la province de la Tchopo, ainsi que la province de Haut-Tourné, qui aujourd'hui enregistre des incidents EDF. Alors, en fait, suivant seulement ce qui se passe dans cette dynamique EDF, je me rends compte qu'on risque de continuer à fustiger des cas de massacre de la population civile et malheureusement, on ne sait pas tirer réellement de leçons du passé. Donc ici, il y a une répétition d'événements qui se passent sur le terrain et malheureusement, les responsables ne prennent pas ou ne tirent pas de leçons par rapport à ce qui se passe comme événement par rapport à cette dynamique. Les EDF, en fait, continuent à développer la stratégie de perpétuer la terreur, parce que c'est ça l'objectif principal de ces groupes. Et en même temps, les EDF essaient aussi de créer des stratégies pour créer une sorte de division ou une sorte de tension entre la population et les autorités. Pourquoi je le dis? Dans la plupart des cas, on enregistre des incidents EDF à quelques kilomètres des positions des forces de sécurité et de défense. Et pour ce cas-là, la plupart des fois, on n'enregistre pas d'intervention proactive des forces de sécurité. Ce qui fait que la plupart des fois, la population, elle se donne le fait de l'hypothèse. L'hypothèse, la première hypothèse, c'est de dire soit alors nous avons des forces armées qui ne sont pas capables de l'indiquer ou de mettre le fait à ce fléau qui engage du jour au jour la population de cette zone.
Oui, mais est-ce qu'en émettant cette hypothèse-là, est-ce que la population a tort?
Non, alors, peut-être, moi je vais seulement donner des faits et peut-être que chacun va donner sa conclusion. Moi je vais essayer de continuer à faire des faits, à donner des faits et des analyses et chacun va essayer de donner la conclusion par rapport à ça. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, la première chose, c'est que la population se dit alors nos forces de sécurité ne sont pas capables de faire ce terme à ce fléau et donc nous continuerons à mourir tel que nous le sommes aujourd'hui. La deuxième hypothèse, c'est alors soit c'est une complicité. Quelle est cette femme qui sont notées par l'État pour sécuriser la population? Et la population, et cette population continue à périr au-dessus de cette forme de sécurité. Alors, soit il y a complicité de cette forme. Et donc, malheureusement, on continue à le sécuriser. Aujourd'hui, il y a une attaques. Hier, il y a eu ces attaques, après il y a la même chose, et malheureusement, il n'y a pas de leçon, il n'y a pas de conséquences possibles par rapport à cette situation. Aujourd'hui, le mois passé, tel que je le disais la fois passée, tel que les opérations se déroulent sur le terrain, moi je me dis, on n'a pas vraiment beaucoup de chances pour que les résultats, on les obtient. L'ONU a parlé des réussites du côté de la frontière, notamment dans les secteurs de des rivières et dans la tesserie du marché. Certainement, il y a eu une opération qui a été réalisée dans cette zone et on a vu réellement comment les militaires congolais et les militaires ougandais ont pris des initiatives pour mettre les aides dans cette partie-là. Parce qu'en fait, comme je le disais, il y a des opérations
aériennes et bien aussi des opérations de la sécurité. Mais malheureusement, après avoir stabilisé les zones frontalières, on se rend compte que dans les autres zones, ça ne se passe pas comme ça. Si aujourd'hui, on parle de ce massacre de Béni, ça a commencé déjà par ce qui s'est passé vers Nissacha. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu des opérations. Il y a eu d'abord la destruction des bastions de ZDF dans les territoires de Libéry. Et lors de, après cette destruction de ces bastions, les ZDF aussi, et c'est comme ça qu'ils sont partis. Il y a la population du côté de Moussassa et dans tous les villages qui sont sur la route qui mène vers Tangan de ces côtés-là. Mais on s'est rendu compte qu'il n'y a pas une opération qui s'intéresse. On a seulement détruit ces bastions-là et les ZDF ont fait la révolte contre la population et on a connu un nombre responsable de populations qui ont péri. Après ça, il y a une autre attaque des bastions de ZDF vers la forêt de Elaki à territoire de Mamba. Et après ce bombardement, on a dit encore le ZDF revenir et s'attendre à la population. Il y a eu plusieurs attaques, par exemple, dans la zone de Biakato, tout de Biakato, mais malheureusement, par rapport à ces attaques-là, on n'a pas vu une action proactive des forces de sécurité. Finalement, les gars, lorsque vous appelez la population de sécurité, vous avez dit, alors, nous, tout ça, comme tous les hommes de population civile, nous n'avons pas assis au pied de souris pour espérer avoir une solution par rapport à ça. Aujourd'hui, il s'arrive à Béni. Certainement, ce qu'il faut quand même qu'on puisse préciser, ça ne fait pas une fois que la ville de Béni n'a pas été touchée. Si vous vous rappelez bien, il y a eu des attaques à Longoma en 2022 et en 2023. Et donc, de 2023 à 2026, ça ne fait pas 5 ans. Et donc, même la ville de Béni, aujourd'hui, qui veut avoir la peur de Béni, et aujourd'hui, on vient de le voir, il y a eu des attaques dans la ville. Et pourtant, c'est le siège aujourd'hui des institutions provinciales. Donc, ça veut dire que même ceux qui sont auprès des institutions provinciales ne sont pas sécurisés. On a dit au début qu'il y a eu des alertes qui sont depuis de nous. C'est un moment, par exemple, pour les décideurs du Biakat. Trois jours avant, les alertes ont circulé dans les réseaux sociaux. On a vu des messages à chaque moment, il y a des mouvements qui se font autour de Biakat. Mais il n'y a pas eu de mesure et les gens sont entrés dans la grande agglomération de Biakat au Yéti. Ce qui s'est passé à Béni, c'est un moment, il y a eu des alertes qui sont passées deux jours avant. Il y a eu d'abord des alertes qui sont passées sur la Sébaou Kamang. On a attendu le cigare commis par les déviés. Et pour ça, c'est pas cela, c'est pas donc à ceux qui l'ont participé. Mais il n'y a pas de disposition. Et finalement, les déviés quittent. Là, c'est voir sa mambo et venir ici dans la ville de Béni. Et si vous voyez, par exemple, là où s'est passé le cigare de Béni, c'est à quelques mètres de une position qui est en
défaite.
En plus, c'est que là, par exemple, comme on l'a dit, c'est une route qui mène vers l'aéroport.
Justement,
une
défense. Justement, ils défoncent Bouakanakazi. Les ZDF opèrent dans cette région depuis plusieurs décennies. Et de la même manière, c'est-à-dire qu'on connaît même leur mode opératoire. Il y a même des alertes, n'est-ce pas, qui sont lancées par la population pour essayer, n'est-ce pas, d'informer les services de sécurité. Alors, mais qu'est-ce qui rend difficile la lutte contre les ZDF sur le territoire congolais? Vous avez rappelé ici que ça fait maintenant 4 provinces qui sont affectées par la menace ZDF. Qu'est-ce qui rend difficile la lutte contre ces rebelles?
Alors, moi je suis analyste et chercheur et nous essayons d'analyser les faits. Et moi je dis il y a une grande limite où les fonctionnements, on fait d'abord de la force de sécurité parce que on se rend compte qu'il y a énormément de informations qui arrivent, des renseignements qui arrivent, mais les services ne savent pas traiter ces informations-là ou prennent ces informations-là à la légère. Et pourtant, l'information, il y a des renseignements, c'est la première barrière pour les opérations militaires. S'il y a des opérations, s'il y a des informations qui sortent, et que les services ne prennent pas ces informations-là, ne traitent pas ces informations-là pour dépasser les attaques et les vies, alors à ce moment-là, on risque de continuer à assister le nombre de morts, le nombre de civils tués. Dynamique-là. Donc, nous, moi, j'ai participé au forum provincial organisé par le gouverneur de province, donc, si vous, sur cette thématique, sur cette problématique est bien. En suivant, par exemple, le service de sécurité, on s'est rendu compte que même au sein du service de sécurité, on sait qu'il y a des dysfonctionnements. Moi, je me rappelle, par exemple, les propos de certains responsables du service de la sécurité pour dire qu'il n'y a pas la coordination au niveau de l'enseignement pour toutes les unités qui sont dans les opérations. Et donc, si déjà, les responsables des services de l'enseignement au sein de l'armée, quel est le système de manque de coordination des services pour l'enseignement au sein des services? Selon moi, j'étais réellement les opérations les mêmes, soit en n'ayant pas de bonnes informations, et à ce moment-là, il ne va pas prendre de bonnes stratégies pour résoudre également les problèmes. Et ce qui fait que, aujourd'hui, ça fait depuis 2014, on continue à résister des cas de mort, et on n'a jamais eu une mal solution par rapport à ça.
Et donc, on peut dire que.
Parce que déjà, les gens se blessent, si on ne sait pas vraiment ce qu'est les informations, au niveau de l'enseignement, l'unité est suivie, les outils, c'est vraiment les opérations qui seront menées, ne pourront jamais aboutir parce qu'on ne sait pas réellement. On ne sait pas vraiment définir une bonne stratégie à mettre sur place pour mettre fin à cette
situation. Il défend ce Boakana Kasi et donc on peut dire que des nouvelles attaques sont possibles dans la ville de Beni.
Alors, c'est possible en fait. Parce qu'en fait, si aujourd'hui, par exemple, si on a réussi déjà cette attaque à quelques mètres de la position des FADC. Donc à Beni, il y a notre zone où il n'y a pas de position, il y a des FADC. Donc là, si les aides FADC, donc on peut toujours enregistrer ces incidents-là. Et aujourd'hui, par exemple, il y a certainement, on parle des opérations, des poursuites des aides dans la forêt, mais on ne sait pas jusqu'à présent les résultats de ces opérations-là. C'est-à-dire que nous voulons que les FADC fassent les liens possibles pour protéger la population peut donner des informations au service militaire pour que les mesures soient prises, et ce que nous voulons. S'il y a eu des initiatives organisées au niveau de la province, il faut maintenant qu'on puisse voir les résultats de ces initiatives-là.
Merci.
L'organisation du forum provincial sur la problématique des aides a permis à ce que toutes les couches de la population de la zone puissent venir et parler de cette problématique. Et nous avons donné, il y a eu des gens qui, les notables, ont donné un mal de problème. Ils ont d'abord présenté le problème et ils ont donné des pistes de solution. Mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, on continue à critiquer le fait que les aides continuent à errer. Comme si c'était ça, c'est une autoroute, et une fois ça, on vit aussi de tout le monde.
Merci, on va donner maintenant la parole à cette population hein, qui est, n'est-ce pas, victime des attaques des EDF pour qu'elle puisse donner son point de vue. Et M. Jean-Paul Capitula, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo.
C'est Blaise Saïd Atoub depuis Kisangani. Une fois de plus, des civils innocents ont perdu la vie dans une attaque atroce à Beni, renforçant les sentiments d'abandon et d'insécurité qui pèsent sur les populations. Comment expliquer que les ADF continuent de massacrer des civils malgré les opérations militaires menées dans la région? Les stratégies sécuritaires actuellement mises en place sont-elles réellement adaptées à cette menace persistante? Quelles mesures urgentes faut-il prendre pour sécuriser efficacement les villages et les zones agricoles exposées aux attaques? Tant que ces questions resteront sans réponse concrète, les habitants de Beni continueront à vivre dans la peur. Il est temps de passer des discours aux actions afin d'assurer une protection effective des civils et de mettre fin à ce cycle meurtrier qui endeuille régulièrement l'est de la RDC.
Jean-Paul Capitula. Jean-Paul Capitula, est-ce que vous êtes là? Jean-Paul Capitula. Voilà, apparemment.
Oui, Guy Maté. Les réseaux, alors ça me fait défaut, je ne vous écoute plus.
Ah, donc vous n'avez pas suivi la réaction de l'auditeur, hein, sa réflexion?
Oui, quelle est ta réflexion? Parce que je n'ai pas suivi, alors le réseau, ça fait défaut.
Il dit ceci, une fois de plus, des civils innocents ont perdu la vie dans une attaque atroce à Beni, renforçant les sentiments d'abandon et d'insécurité qui pèsent sur les populations. Comment expliquer que les EDF continuent de massacrer des civils malgré les opérations militaires menées dans la région? Les stratégies sécuritaires actuellement mises en place sont-elles réellement adaptées à cette menace persistante? Et quelles mesures urgentes faut-il prendre pour sécuriser efficacement les villages et les zones agricoles exposées aux attaques? Tant que ces questions resteront sans réponse concrète, les habitants de Beni continueront, n'est-ce pas, à vivre dans la peur. Il est temps de passer des discours aux actions afin d'assurer une protection effective des civils et de mettre fin à ce cycle meurtrier qui endeuille régulièrement l'est de la RDC. Jean-Paul Capitula. Voilà, il n'est plus là. Honorable Arsène Mwaka, vous allez réagir à la réflexion de l'autre auditeur qui a été appelé depuis la ville de Kindu au Maniema.
Bonsoir Radio Kapi, bonsoir chers auditeurs. Je suis Jacques Munanga à partir de Kindu Maniema. La thématique de ce soir concernant la énième fois de tuerie nous cause une désolation étant donné que cette perte en vies humaines laisse un vide considérable. Ces Congolais abattus lâchement par les éléments de force négatives prouvent combien de fois notre gouvernement est incapable de sécuriser sa population. Il est incompatible que les services de sécurité de Beni se lèvent maintenant pour établir la part des responsabilités, alors que les images qui sont devenues virales dans les réseaux sociaux font état que les tueries s'étaient passées non loin de la résidence du gouverneur, qui est d'ailleurs bien sécurisé par les éléments de l'ordre. À mon humble avis, que le gouvernement congolais fasse de la sécurité de sa population une priorité, au lieu de se préoccuper sur les changements de la constitution pour l'objectif d'allonger leur durée de vie au pouvoir, pendant que sa population est victime de toutes les atrocités et intempéries négatives de ses ventres.
Professeur Arsène Mouaka?
Oui, je pense que l'auditeur Jacques Mounanga, du Maniema, a raison. Il est inacceptable qu'on puisse assister à ce qui se passe, puisqu'on est là sur une des rares routes macadamisées, une très bonne route, où l'intervention militaire, policière, peut se passer sans embûche. On n'est pas dans la forêt, comme certains pensent. On est sur une route qui mène à l'aéroport, qui mène vers Bounia, qui mène vers Kisangani, une route fréquentée, comme je l'ai dit, c'est sur l'axe aéroport.
Et donc, comme le dit Bwakena Kazi, il y a un dysfonctionnement, n'est-ce pas, dans les dispositifs sécuritaires.
Non, il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Et je pense que la conclusion de l'auditeur est plus perspicace pour dire les responsabilités doivent être établies, puisqu'on est à un kilomètre de la résidence du gouverneur, comme l'auditeur vient de le dire. Et le gouverneur n'est pas n'importe quel commando, c'est de la trempe de Mamadou. On est là à face, le gouverneur Somo, c'est un des nos meilleurs commandos formés au même niveau que le feu Mamadou. Mais on ne peut pas vouloir la chose est au contraire. Mmh. Alors que le gouverneur de l'Ituri a droit aux opérations, notre meilleur commando au Nord Kivu n'a pas droit aux opérations. Ah. Vous imaginez un premier dysfonctionnement comme celui-là.
Pas les opérations.
Non, il n'est pas dedans. Okay. Il doit aller gérer le Azalendo qui sort dans le Lubero et ailleurs, mais des opérations de ce genre, il ne peut pas. Je l'ai dit à sa décharge, mais je ne suis pas en train de dire qu'il est innocent à tout ce qui se passe. Hein, puisque l'encadrement de la population pour sa sécurité relève aussi des compétences des gouverneurs, relève de la compétence des colonels, puisque c'est un général qui est gouverneur, c'est un colonel qui est maire de ville, c'est des colonels qui sont bourgmestres, c'est des commandants des opérations qui sont dans ces lieux-là, c'est toute la sécurité,
l'état de siège,
des MIAP, tout le reste, et nous sommes dans un régime exceptionnel où, en réalité, dans la meilleure compréhension de l'état de siège, quand il y a une telle situation, on doit aller poudrier cette brousse. Et rapidement, l'ordre doit être rétabli. C'est là l'esprit de l'état de siège. Mais on veut la chose est au contraire, c'est-à-dire, on nomme un meilleur commando, et après on dit, tu ne vas pas te battre. Alors ça discrédite non seulement le gouvernement provincial, puisque maintenant localement, en tout cas les gens ne comprennent pas, ce que j'explique là pour dire qu'il n'a pas droit aux opérations, la population moyenne ne peut pas comprendre ça. Et donc c'est à ce niveau, c'est au niveau de Kinshasa où les choses doivent se régler. On doit conceptualiser l'état de siège. On a décrété un état de siège, mais on doit lui donner un contenu. Si on veut maintenir l'état de siège, il faut lui mettre un contenu. Qu'est-ce que le gouverneur doit faire d'exceptionnel, lui qui a remplacé le costume civil pour le troquer contre les treillis militaires? Quel est le nouveau contenu d'un gouverneur? Parce que visiblement, c'est un gouverneur plus faible qu'un gouverneur civil. Et c'est inadmissible, puisque au moins, c'est un général connu qui n'a fait que la guerre. Il a sacrifié toute sa jeunesse pour la guerre, mais on l'empêche. Celui de l'Ituri, lui, mène les opérations. Il est commandant des opérations.
La différence, c'est à quel niveau? Parce que celui de l'Ituri supervise les opérations, mais les EDF, n'est-ce pas, continuent à sévir dans cette province. Et celui du Nord Kivu, lui, ne supervise pas les opérations, mais l'activiste des EDF revient. Alors, c'est quoi le problème? Parce que celui de l'Ituri a la capacité, n'est-ce pas, de superviser les opérations, mais cela n'empêche pas aux EDF de commettre des massacres.
Oui, mais celui de l'Ituri, on ne vient pas massacrer à la sous-région, à Ituri. Ce n'est pas la sous-région ou quelque part à Bakokola qu'on vient massacrer, comme c'est dans notre cas. C'est dans le quartier du gouverneur où on vient massacrer. Et le gouverneur doit se référer à un autre général. Hein, à un autre général pour lui dire, bon, c'est comment là-bas, et ainsi de suite. Et le général n'intervient pas la nuit, il vient le matin, quand les civils sont déjà entrés dans la brousse pour aller chercher les corps avec des bâtons. Et moi, j'ai dit, pourquoi ces civils
qui ont le courage. Le gouvernement congolais ne peut pas se les approprier, puisqu'il nous dit toujours qu'il ne saura pas mettre un militaire ou un policier par maison des civils. Mais ces civils-là sont dans leur maison. Ils ont le courage de prendre des bâtons. On ne peut pas mieux donner à ces civils-là pour qu'ils se prennent à charge en attendant que l'armée vienne de loin. Parce que le plus souvent, tout le problème, c'est qu'on dégarnit aussi. On dégarnit quand il y a des attaques, je ne sais pas, du côté du sud de la province. On dégarnit, on amène là-bas, et ainsi de suite. Donc, celui de l'Ituri a le commandement. Bon, il essaye, il donne ses résultats comme il peut. Bon, maintenant, Mambasa, ce n'est pas tout de suite à côté de Bunia. Mais il y a des opérations qui se passent. L'UPDF est là et l'armée, ils sont en train de faire le travail, mais ce n'est pas un travail parfait. Mais quand même, ils essayent de faire. Mais ici, on est dans un espace qui était relativement calme, mais depuis 6 mois. Et puis, du coup, on est surpris. Mais on n'est pas totalement surpris, puisque ça a été dénoncé, mais on n'a pas vu de réaction avant.
Merci, Ildefonse Bwakyanakazi. Vous allez réagir aussi à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Lubumbashi dans les Haut-Katanga.
Et Mutamba Nyang est bienvenu depuis la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Ces nouvelles tueries de Beni ne doivent pas être analysées comme un simple effet sécuritaire, mais comme un symptôme d'une crise profonde de l'autorité de l'État dans certaines zones de l'Est de la RDC. Chaque massacre perpétré par les ADF constitue un défi direct lancé à la souveraineté nationale et à la capacité des institutions à protéger les citoyens. Le choix de cibler les cultivateurs dans des entités agricoles n'est pas inondin. Il s'agit d'une stratégie visant à instaurer la peur, à vider les campagnes et leurs habitants et à paralyser l'économie rurale. Lorsqu'un agriculteur ne peut plus accéder à son champ, c'est toute la chaîne de production alimentaire qui est menacée, avec des conséquences sociales et humanitaires considérables. Ces attaques répétitives soulèvent également une question fondamentale. Pourquoi les ADF conservent-ils encore une capacité de nuisance malgré les opérations militaires successives? Cette réalité invite à renforcer non seulement l'action militaire, mais aussi les renseignements, la surveillance des mouvements armés et la collaboration entre les forces de sécurité et les populations locales.
Ildefonse Bwakyanakazi.
Oui, en fait, je suis tout à fait d'accord avec notre compatriote qui nous a appelé de Lubumbashi. Parce qu'en fait, ce qui est vrai, comme je le cite le plus souvent, c'est qu'il y a déjà une faiblesse ou carrément une absence de notre politique de défense nationale. Parce que si aujourd'hui le pays est tiraillé partout, que ce soit dans la zone Edier, que ce soit du côté N23, que ce soit dans d'autres parties, où la sécurité n'est pas garantie, cela démontre clairement notre politique de sécurité, de défense, pose problème déjà à ce niveau-là. Mais aussi, la faiblesse, c'est aussi, c'est déjà aussi au niveau opérationnel. Parce que si aujourd'hui, j'ai entendu l'honorable qui parlait du fait que certainement, il y a une certaine hybridité dans le fonctionnement de l'État de siège. Le gouverneur du Nord-Kivu, lui, le gouverneur, n'a pas la responsabilité des opérations entre ses mains. Mais cela n'empêche pas, par exemple, de que les unités qui étaient tout juste à côté de là où il y avait, l'incident, qui prennent cette unité-là pour s'intervenir. Ce n'est pas même pas qu'il fallait vraiment qu'on attende que le gouverneur appelle. Donc, déjà, le fait que les forces de sécurité, leur première responsabilité, c'est de protéger la population, dès le premier instant de l'incident, les militaires qui étaient pris aux côtés de cette zone-là pouvaient intervenir, et les rapports pouvaient maintenant venir après, mais il y aurait déjà une intervention. Et donc, oui, certainement, il y a des sécurités administratives, des politiques au niveau de tout ça, lorsqu'il y a des décisions qui se font, mais moi, je crois aussi que, déjà sur le terrain, il y a aussi quand même des limites qu'on peut utiliser de la part de nos militaires qui sont sur le terrain. Parce qu'en fait, moi je me rappelle de voir par exemple des images qui sont sorties le matin, à Moja par exemple, une position de militaires à vraiment à quelques mètres, je ne sais même pas si on peut avoir 500, c'est même pas 500 mètres. Donc même une voix, une personne ici qui devait déjà alerter les militaires qui sont sur sa côté. Et donc, tout ça, comme tel qu'il l'a dit, comme tel que l'auditeur l'a dit, c'est déjà une faiblesse à ce niveau-là. Et donc, c'est maintenant vraiment notre état de se remettre à cause et de voir comment développer vraiment une politique de défense nationale concrète qui sécurise vraiment la population. Mais aussi autre chose, il ne faudrait pas minimiser, il ne faudrait pas compter comme si la population qui vit dans la ville, elle est plus supérieure à celle qui est dans la bourse. Parce que si par exemple, je suis venu à cette question pour dire que, écoutez, même si le gouverneur de l'Ituri a des opérations de sa responsabilité, mais on continue aussi à tirer de l'autre côté, Mais le gouvernement de l'Ituri, il a aussi la responsabilité de sécuriser cette population de Biakato, de Aïma, de Makete, partout là-bas. Et donc, cela veut dire que, certainement, déjà la manière comme celle-ci de le dire, la manière de conduire, de cette opération, de l'opération Fougère, présente déjà des problèmes. Et c'est à nous, normalement, à notre État, aux responsables de sécurité, de réunir, de réévaluer encore cette opération et de prendre réellement des mesures. Ce que nous avons dit, il y a une zone où on a vu réellement des opérations sécuritaires et il y a une résultat. Maintenant, aujourd'hui, peut-être que les gens devaient bien faire d'abord revenir dans ces zones-là et continuer à perpétuer le massacre contre la population
civile.
Et autre chose, telle qu'on l'a dit, il n'y a pas aussi l'état de la responsabilité, de la rédébabilité de nos territoires. Si par exemple aujourd'hui, c'est lui qui était le chef de l'unité qui était juste à côté de la zone où on a assassiné des gens. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, on n'a pas attendu que par exemple il a été interpellé pour qu'il explique pourquoi il y a eu un décident dans l'un de sa zone et il n'a pas intervenu. Par exemple, il y a eu, je suis dit par exemple pour le cidat de Biakato, où on a lorsque le général Bruno Mandepo est arrivé à Biakato, il a relevé trois officiers de leur fonction parce qu'il n'y a pas eu d'intervention. Mais en plus de ça, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'on a nommé de nouveau? Mais en nommant de nouveau, quelle a été la sanction, par exemple, pour les autres militaires, qui les autres officiers qui ont été relevés, mais qui n'ont pas été venus pour protéger la population? Parce que cela aussi pourrait, cette rédébabilité-là pourrait interpeller les autres officiers pour dire, écoutez, ma mission première ici dans cette zone, c'est de protéger la population. Et si je ne le fais pas, je serai sanctionné parce que je ne sais pas l'évacité de ma responsabilité de ma mission première.
Merci, Ildefonso Bakenakazi. Jean-Paul Capitula, il y a Arkis Mouindo, depuis la ville de Goma, qui dit ceci, il est impératif d'opérer une mutation immédiate de tous les officiers et militaires ayant trop duré dans la zone de Beni, car leur présence prolongée favorise les complicités locales. Est-ce une des solutions, Jean-Paul Capitula?
Ah oui, Dimaté, même si je ne suis pas technicien militaire, mais je sais qu'il faudra aussi comprendre la durée qu'un militaire doit faire dans les opérations. Ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte, parce qu'il est aussi humain, il doit avoir des sentiments, il doit avoir aussi des sens. C'est à ce moment-là qu'il faut comprendre que lorsqu'on doit opérer des changements au niveau des opérations, ça fait avoir aussi des impulsions nécessaires pour que... J'ai même suivi parmi tous ces auditeurs qui ont intervenu, c'est lui qui a parlé de la question de la réseau de Beni. Les ADF n'est pas une question de Beni, c'est une question nationale et même une question internationale. Ce sont des terroristes. Ils peuvent aujourd'hui nous attaquer, mais ça n'empêche pas que ces ADF puissent attaquer aussi d'autres pays. Nous le savons qu'au Mozambique, il y en a, il y a au niveau des lignes, il y en a. Et au fait que Daesh, qu'il faut déjà en collaboration, ça ce sont des thèses qui ont été trouvées par certains écrivains et chercheurs, et qu'il faut en collaboration avec ces ADF. Donc il faudra prendre cette question avec beaucoup plus de grandes dimensions. Donc la question du sentiment de militaires au niveau de l'opération de commandement, j'ai suivi le professeur Moka qui en a dit, je le salue en passant, bien que le réseau nous a joué, mais il faudra dire que ce n'est pas la première fois et que donc nous devons, toutes ces questions de changement ont été déjà soulevées par la communauté. Et même, je crois que le président de la République, quand il a été là pour écouter la population, il lui a dit les mêmes choses. Ça se répète. Nous sommes à la répétition du tout. Donc il faudra aussi que cette question soit prise en compte au niveau national et comprendre que nous devons prendre des mesures grande et non pas prendre action seulement de bénéficiaires. C'est une question nationale et que tout le pays doit s'impliquer. Toutes les autorités doivent s'impliquer pour que nous trouvions solution.
Merci, professeur Arsène Mouaka. Nous tendons vers la fin de l'émission. On va commencer à proposer des pistes de solutions et conclure. Hein. Kiavu Vianney, depuis Goma, dit la situation sécuritaire causée par les ADF à Beni est placée dans les oubliettes par le régime actuel car elle ne menace pas directement les institutions en place comme l'ASM23. Est-ce que ce n'est pas ça les problèmes fondamentaux, le professeur Arsène
Mouaka? J'ai toujours dit à ce micro que l'ADF ne menace pas un régime. Et depuis Mobutu, l'ADF menace la population. C'est pourquoi pendant 40 ans, l'ADF est resté à Beni.
Et donc, c'est
des opérations qu'on ne prend pas au sérieux depuis Mobutu, Kabila Lora, ainsi de suite jusqu'aujourd'hui.
C'est quoi votre position?
Ça ne se prend pas au sérieux.
C'est quoi
ma position, c'est que on a choisi l'état de siège. l'état de siège doit être reconceptualisé. On doit dire ça sert à quoi. Parce qu'on ne peut pas nommer un militaire, après on lui dit qu'il ne peut pas faire la guerre. Ça c'est la première chose, il faut reconceptualiser l'état de siège. La deuxième chose, c'est qu'il faut rendre contrôlable l'état de siège. Ils doivent rendre compte quelque part. On doit créer des mécanismes de contrôle de cet état de siège pour qu'il y ait rentabilité, la redevabilité. La troisième chose, c'est qu'il faut une redynamisation des opérations militaires. On doit faire la part des choses entre l'état de siège et les opérations militaires. Hein? Et donc on ne doit pas semer la confusion, puisque dans la tête de beaucoup d'autorités, quand on dit état de siège, et si quelqu'un dit l'état de siège doit se terminer, on croit qu'on a dit qu'on doit arrêter les opérations militaires. Et donc il faut faire la part des choses entre l'état de siège et les opérations militaires qu'il va falloir redynamiser. La troisième et dernière chose, c'est qu'on doit mettre à profit la population pour la sécurité. Tout près de nous, que ce soit dans les pays qu'on n'aime pas citer, les voisins là, ils ont organisé leur population sous forme de Nyumbakumi, c'est-à-dire un regroupement de 10 maisons. Ils ont organisé des forces de sécurité, ils ont donné des petits noms, et ainsi de suite. Et la population relaye les informations auprès des autorités et des informations précises, puisque c'est une population formée par l'armée nationale et les services nationaux, et pas des milices. Parce que moi, je ne soutiens pas les milices, mais j'ai dit ici, il faut que le gouvernement organise des citoyens. Et des bons citoyens qui ont des CV vierges, qui ont des casiers judiciaires vierges et qui peuvent être préparés pour collaborer, donner des meilleurs renseignements. Et ainsi, nous pouvons vaincre facilement l'EDF.
Merci. Ildefonse Boakyanakazi, vos propositions, ça sera sur votre conclusion.
Ok, en fait, moi, mes propositions, je les fais toujours. Et la première proposition, c'est d'abord la redéfinition de la politique nationale de défense et de sécurité. Ça, c'est vraiment la base du tout. Parce que s'il y a des opérations qui se mènent sur le terrain, si déjà la base, elle n'est pas bien faite, alors finalement, ce qui se fait sur le terrain, ça ne peut pas aboutir au résultat escompté. Et donc, pour moi, parce que il est important, comme nous avons d'ailleurs même les autres députés ici, de faire vraiment une pression pour puisse définir l'élément de notre politique de défense nationale. Et ça, c'est la base de tout ce qui se passe le terrain. La deuxième chose, c'est la réévaluation des opérations qui sont menées sur le terrain. Parce qu'en fait, comme on l'a dit, il y a des opérations soudanaises qui sont là, qui sont menées conjointement avec les militaires ougandais, mais jusqu'à présent, avec plus de 5 ans de ces opérations, mais on sera conditionné, les résultats n'est pas toujours celui qu'on est en vrai escompté. Et donc, avec ça, moi, je pense que 5 ans, c'est déjà beaucoup. Il y a eu un moment donné des sessions de réévaluation, de réadaptation, mais depuis un moment donné, on n'a pas mis plus.
Et donc, pour moi, je pense
que c'est important, mais qu'il est responsable de réévaluer vraiment ces opérations.
Merci.
Et voir quels sont les mécanismes qu'il faudrait adapter pour qu'on puisse mettre ça.
Merci, Jean-Paul
Capitola.
Jean-Paul Capitula, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Votre mot de la
fin. Donc, j'allais dire que, oui, le mot de la fin, je veux dire que cette question des EDF doit nous interpeller, nous tous. Le gouvernement doit y mettre beaucoup son attention. L'Assemblée nationale, qui a un rôle important à jouer, parce que ce sont les représentants du peuple, ils doivent comprendre que nous en avons marre. La population est meurtrie. La population souffre de cette question. Et que donc, ils doivent se mettre dans la chair de cette population qui les élise. Tous ensemble, nous devons nous mettre ensemble, avec l'armée, avec les services, pour combattre cette question. Et qu'on ne doit pas régionaliser la question des EDF. Et qu'à la fin, il faudra dire que les réévaluations et tout ce qui a comme activité, qui a toujours été fait chaque fois, doit prendre une connotation sérieuse.
Merci. Merci, on a compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer, professeur Hassan Mouaka, merci d'avoir fait les déplacements jusqu'au studio. Monsieur Jean-Paul Capitula et Monsieur Ildefonse Boakyanakazi, merci aussi aux auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Donat Madimba et Benjamin Moudoumbi qui l'ont réalisé. Et merci aussi à Marc Emaro Fimbo qui a contribué à la production de cette émission. Et à Paul Badianyama et Pierre Diassinois qui étaient à la technique. Et aussi à Chembe Eloku qui a assuré les lives de cette émission. À la présentation, Guy Maté, merci encore et bonne suite de programme sur Radio Capture.